Bonjour et bienvenue dans le grand face-à-face de France Inter et merci de nous être fidèles tous les week-ends. Au sommaire de l'émission jusqu'à 13h, le duel Natacha Polony-Gilles Finkelstein suivi du débat. Quels sont les grands enjeux du 5 décembre? Faut-il y voir une mobilisation contre la réforme des retraites tout simplement ou un front anti-Macron en train de se constituer? Question de méthode, de stratégie ou de justice sociale ou encore mouvement catégoriel comme le disent de nombreux membres de la majorité? Pour en parler, notre invité, le directeur de l'Institut Montaigne, think tank qui avait fourni quelques-unes de ses idées fortes au candidat Emmanuel Macron pendant la dernière campagne présidentielle. C'était il y a tout juste un an, l'Institut Montaigne passait au crible les premières réformes du quinquennat. Et le directeur de cet institut, Laurent Bigorne, viendra nous rejoindre dans une vingtaine de minutes.
France Inter, le grand face-à-face. Ali Badou.
La directrice de Marianne, Natacha Polony, et le directeur de la Fondation Jean Jaurès, Gilles Finkelstein. Bonjour les amis.
Bonjour.
Heureux de vous retrouver et on va revenir avec vous sur quelques-uns des temps forts de la semaine.
Cette tragédie ne peut pas être une remise en cause de notre engagement. Vous imaginez ce que penseraient nos soldats si j'allais leur dire parce que 10, 13, 20 d'entre vous sont morts, notre mission n'a plus de sens.
François Lecointre, chef d'état-major des armées, c'était sur France Inter au début de la semaine après le décès de 13 militaires de la force Barkhane, vous le savez. 13 militaires qui ont péri au Mali dans la collision de deux hélicoptères lors d'une opération de combat contre des djihadistes. Un hommage solennel leur sera rendu lundi aux Invalides. La question qui est posée, est-ce que c'est celle de la présence de la France au Sahel, Natacha?
Alors, je rejoindrai le général Lecointre sur un point. Ce n'est pas parce qu'il y a des soldats qui meurent au combat, qu'il faut ou non décider de l'intérêt de cette mission. Ce sont deux choses qui sont disjointes. C'est une tragédie et qui nous bouleverse tous, mais la mort de soldats au combat fait partie, hélas, du risque qu'ils prennent. Et la question, c'est de savoir, de façon totalement détachée de cela, en effet, comment se construit cette mission, quels sont ses objectifs. Or, la seule chose, moi, qui me frappe, c'est que ça fait tout de même 6 ans que la France est au Mali, et elle est toute seule. Or, ce qui me choque, c'est la question, mais où sont nos alliés? C'est-à-dire, qu'est-ce que la France fait toute seule? Est-ce que la France sert ses intérêts?
Non. Appeler, justement, les alliés de l'OTAN. Parce que la France, justement, portait seule le coût total de cette opération.
De l'OTAN ou de l'Europe, hein. Ça sert à ça aussi l'Europe et nous défendons les intérêts de l'Europe à cet endroit-là parce que je pense qu'une déstabilisation du Mali serait tragique pour l'Afrique elle-même, mais ce serait peut-être pas non plus très bénéfique pour l'Europe.
Gilles Finkelstein.
Oui, je crois que Natacha Polony a raison. On a tous ressenti de l'émotion devant ces visages, en découvrant ces parcours de vie, en éprouvant ce qu'était cet engagement et ces risques. Est-ce qu'il fallait y aller? D'abord, je crois que la réponse est oui et que l'intervention de la France a été rapide.
En 2013?
En 2013, elle a été rapide, elle a été efficace et il faut réhabiliter et François Hollande et la Ve République, François Hollande qui a eu le courage de le faire, et la Ve République qui le lui a permis. Maintenant, on est 6 ans après. Et donc, est-ce qu'il faut y rester? Je crois que la question est une question qui est légitime, non pas parce qu'il y a eu 13 morts, ou non pas seulement parce qu'il y a eu 13 morts. Elle est légitime même s'il y a un délai de décence avant de se la poser et que lorsque le jour même les députés de la France Insoumise posent cette question-là, ce délai de décence n'est pas respecté. Mais la question est légitime parce que le bilan est mitigé. Au sens où l'intervention a permis de cantonner les groupes terroristes, mais elle n'a pas permis de les réduire. Ils se sont disséminés et ils se sont même implantés dans un certain nombre d'endroits. Et plus que ça, je crois ce qui est très, très intéressant et qui pose question, c'est que la stratégie est sans doute bonne, mais elle est difficile à mettre en œuvre et on l'éprouve chaque jour davantage. La stratégie, compte tenu du territoire extrêmement vaste, c'est...
Il faut rappeler que la force Barkhane, ce sont 4500 soldats sur un territoire qui est 5 fois plus grand que la France.
Exactement. Et donc la stratégie, c'est une stratégie par zone. On dit, la force Barkhane intervient dans une zone, elle prend une zone, elle la stabilise et elle essaye de faire revenir l'État l'État malien, sur ce territoire, c'est-à-dire un maire, c'est-à-dire des militaires, des policiers, des enseignants. Et on voit à quel point c'est difficile, et de manière très, très symbolique, il y a eu, avant le drame de cette semaine, il y a eu un autre drame qui est passé inaperçu, qui est le symbole de la difficulté, c'est la garnison d'Indeliman, qui était au cœur de ce territoire dans lequel 49 soldats maliens, au début du mois de novembre, ont été massacrés. Et donc, je crois que la question, elle se pose parce que la stratégie est difficile à mettre en œuvre, parce que le bilan est mitigé. Mais si je dis d'une phrase ma position, je pense que il faut y rester, parce que ce qui s'y joue, c'est à la fois la lutte contre le terrorisme, l'influence de la France et même l'intérêt de la France.
Et qu'est-ce que ça dit aussi du rapport des Français à leur armée? Parce que le général Lecointre, et c'était assez frappant de l'entendre à l'antenne d'Inter, se demandait si les Français n'étaient pas finalement trop distants, voire indifférents par rapport à leurs troupes et notamment celles qui sont engagées sur des théâtres d'opérations extérieures.
Alors, il y a un premier problème, me semble-t-il, qui est la question de savoir si les Français peuvent réellement s'approprier, j'allais dire, des opérations qui sont sur des théâtres extérieurs. C'est-à-dire que, est-ce qu'ils en comprennent eux aussi l'objectif? Est-ce qu'ils sont convaincus de la nécessité? Ça, rien n'est moins sûr. Et c'est d'autant moins sûr que là où j'apporterai une nuance à ce que disait Gilles tout à l'heure, quand il disait il faut réhabiliter François Hollande et la Ve République, c'est que s'il a été nécessaire d'aller au Mali, et encore, il y avait débat pour savoir si vraiment c'était nécessaire. Là aussi, je peux entendre qu'on puisse en discuter. Mais surtout, c'était la conséquence directe d'une intervention absolument tragique et désastreuse en Libye, qui a disséminé les armes qui étaient celles du régime libyen, qui sont allées servir tout le Sahel. Et c'est cela qui a provoqué la catastrophe. Donc, je pense que nous payons, en fait, une série de mauvaises décisions, de mauvaises gestions et de déstabilisation. Maintenant, nous y sommes et je pense en effet qu'il faut tout simplement rappeler le sens que cela peut avoir et la façon dont on peut en sortir à travers non seulement une opération militaire, mais ensuite tout ce qui va avec. Une opération militaire ne se pense pas seule. Il y a un travail, en effet, de développement, un travail d'aide aux populations, d'indépendance des pays. C'est tout cela qui se joue. Les Français, vis-à-vis de leur armée, on sent très bien qu'il y a une émotion immense quand un accident de ce type arrive. Le problème est qu'il ne faudrait pas que l'armée porte seule l'idée de cohésion nationale, de devoir, d'engagement qui devrait se construire de façon diverse dans tout un pays.
Gilles.
Oui, le fait que l'intervention en Libye ait pu être à l'origine des difficultés, c'est probable, mais ça n'invalide pas la justesse du choix d'intervenir au Mali. Bon, ça c'est le premier point. Deuxième point, je crois que ce qui est en jeu, c'est dans nos démocraties, qui sont souvent sur un temps plus court, qui sont souvent gouvernées par l'émotion, c'est la capacité d'assumer une stratégie de long terme. Et je pense que l'opinion est prête à soutenir une stratégie comme ça. Sachant que, évidemment, la question n'est aujourd'hui pas de savoir, je crois, s'il faut partir ou s'il faut rester. Je crois qu'il faut rester, mais il faudra bien partir. Et donc la question, c'est comment on fait pour que les autorités politiques maliennes soient en situation de prendre le relais. Ça reste la question qui est posée à la France et pas seulement à la France. La France n'est pas totalement seule puisque il y a d'autres pays européens avec nous parce qu'il y a aussi une mission de l'ONU, mais la France assume la majeure part du fardeau et ça serait, je crois, indispensable que d'autres viennent en soutien.
France Inter, le grand face-à-face. Le duel.
Utiliser des objets différemment, en les louant, les réparant, en les échangeant, en achetant aussi de seconde main. Bref, changer ce rapport à la consommation. Et l'objectif, c'est de lutter contre cette double arnaque pour la planète, pour le porte-monnaie des Français, qu'est le Black Friday, un vendredi noir.
Brune Poirson, secrétaire d'État à la transition écologique et solidaire, elle critiquait donc le Black Friday, les ravages du consumérisme, cette arnaque. Au lendemain de cette journée symbole de la consommation de masse, une tradition importée des États-Unis et notamment aussi de la Grande-Bretagne, quel regard portez-vous sur ce qu'on appelle au fond en français des soldes ? Natacha.
Oui, ça s'appelle des soldes, on peut peut-être le dire de cette façon. Ça nous évitera d'importer une tradition qui n'a strictement rien à voir avec les pratiques qui sont les nôtres, dans la mesure où nous ne fêtons pas Thanksgiving. Donc tout ça est assez particulier. Et surtout, tout cela, en fait, est gênant. Et parce que c'est le condensé de tout ce que nous sommes en train aujourd'hui de rejeter à titre collectif. On voit bien qu'il y a actuellement, et c'est tant mieux, une prise de conscience autour de la question de la préservation de l'environnement, autour de la question de savoir ce qu'est réellement le bonheur et si le bonheur relève de l'accumulation et de l'accumulation due à des pulsions. Or, qu'est-ce que c'est que ce Black Friday qui s'est imposé avec une rapidité absolument effarante, 3 ans, et maintenant vous ne pouvez pas entendre une publicité sans qu'elle évoque un Black Friday qui d'ailleurs n'a plus rien à voir avec une journée puisque maintenant ça dure une semaine. Donc tout cela devient aberrant et ne joue que sur les pulsions, c'est-à-dire sur tout ce qui nous empêche de réfléchir aux conséquences, à notre responsabilité en tant que consommateur et aux conséquences de nos actes.
C'est pas l'occasion aussi de faire des affaires.
C'est le contraire. Non, c'est pas l'occasion de faire des affaires puisque en plus on
Gilles n'a pas l'air d'accord.
C'est une incitation à la dépense pour des objets dont on n'aurait pas forcément eu besoin et dans un cadre pulsionnel. C'est le contraire de tout le modèle de société qui visiblement est en train de surgir dans l'imaginaire de beaucoup de gens. Je trouve ça profondément dommage.
Gilles.
Oui, rapidité effarante, c'est vrai. Le Black Friday est importé en France en 2013. Via des sites internet, c'est important de le souligner, et en l'espace de quelques années, ça s'est imposé partout. 95% des Français connaissent Black Friday, selon une enquête qui a été publiée cette semaine. En revanche, nuance quand même par rapport à ce que disait Natacha, avec lequel je suis en partie d'accord, mais en partie seulement. C'est aussi, il faut quand même regarder la réalité, un rendez-vous important, positif pour beaucoup de consommateurs, et pas seulement, contrairement à ce qu'on dit, pour ceux qui ont les revenus les plus modestes. Là aussi, même enquête, 75% des Français qui disent c'est une bonne chose, 62% qui disent j'ai l'intention de réaliser des achats, et par rapport à cette idée que c'est une pulsion, c'est souvent préparé, c'est-à-dire qu'ils vont repérer pour beaucoup d'entre eux avant, et ils le font en fonction notamment des achats qu'ils veulent réaliser à Noël.
Donc là, vous parlez de vous.
Alors, je n'ai pas repéré, je n'ai pas acheté, mais je vais peut-être le faire. C'est important pour les consommateurs, c'est important aussi pour beaucoup de magasins dans lesquels le mois de décembre est le mois dans lequel se joue l'année et dans lequel la journée du Black Friday est une de ces journées dans lesquelles se joue le mois. Donc, il y a aussi cette réalité-là. Maintenant, il n'en demeure pas moins que c'est le symbole d'une surconsommation, d'une frénésie consommatrice. C'est vrai en France, c'est vrai davantage encore en Chine. Le Black Friday, son équivalent, est un peu plus tôt dans l'année, organisé notamment par le site Alibaba. En l'espace de 24 heures, c'est 25 milliards d'euros qui ont été dépensés. Donc là, on est vraiment dans la frénésie consommatrice.
Mais vous comprenez donc ceux qui veulent en profiter.
Évidemment que je comprends ceux qui veulent en profiter. Tout ça posant malgré tout, et je rejoins Natacha quand même sur ce point-là, la question de notre modèle de consommation. Mais le problème, ce n'est pas Black Friday. Le problème, c'est notre modèle de consommation.
Natacha.
Oui, c'est bien sûr notre modèle de consommation, mais un modèle de consommation qui est appuyé sur l'idée du low cost et du fait qu'il faudrait absolument acheter au prix le plus bas. Le plus possible. Or, tout l'enjeu des années à venir, tout l'enjeu des années à venir va être au contraire de construire un mode de consommation qui soit celui du juste prix, c'est-à-dire du prix qui répond à une qualité, qui répond à une aspiration de longévité, de mode de production qui fait du bien à la fois à la planète, au pays. C'est tout cela qui va devoir être mis en œuvre. Pourquoi ? Parce que cette stratégie de long terme est bénéfique à l'ensemble de la population.
Mais ça m'étonne parce que c'est la couverture de Marianne cette semaine. Pourquoi augmenter les salaires ? C'est donc un dossier qui est consacré au pouvoir d'achat. Voilà une manière, en l'occurrence, de permettre à des consommateurs de réaliser des achats.
Justement non, Ali, c'est tout le contraire. C'est-à-dire que là, quand vous parlez pouvoir d'achat, vous avez l'air que de considérer que la question, c'est celle de ce qui sort de la poche du consommateur. Et donc, il faudrait qu'il paye moins cher les produits. De même, d'ailleurs, qu'on s'était focalisé, c'est vrai, à juste titre, l'année dernière, avec les Gilets jaunes, sur la question des taxes, des impôts, de ce qui sortait de leur poche. Et nous, justement, nous renversons la logique en disant le premier problème, c'est ce qui rentre dans la poche des citoyens. Et la question de savoir quels sont les métiers qui sont correctement rémunérés en fonction de leur utilité sociale, quels sont ceux qui relèvent d'une logique de marché où on peut, tout simplement, dans des métiers en tension, recruter parce qu'on paye correctement les gens.
France Inter, le grand face-à-face, le duel.
On a un problème avec les COP aujourd'hui. Ça fait 25 ans qu'on n'est pas efficace pour lutter contre le dérèglement climatique. C'est peut-être l'opportunité de repenser ces sommets climat pour qu'ils soient beaucoup plus efficaces, qu'ils apparaissent beaucoup moins hors sol et qui, de fait, ils donnent enfin des résultats tangibles et pas simplement un show pour dirigeants en mal de réputation écologique.
C'était l'eurodéputé Europe Écologie Les Verts Yannick Jadot sur l'antenne de France Inter, quelques jours donc avant la COP25 sur le climat qui se tiendra en Espagne à partir de lundi. Pourquoi vouliez-vous revenir sur ce rendez-vous qui est maintenant régulier, Gilles ?
Parce que c'est, je crois, chaque COP est l'occasion de faire le point sur l'évolution du savoir. Où en est-on réellement? Et si on essaye de résumer à l'aube de cette COP25 où on en est, ce qui est clair, c'est que, un, la situation s'aggrave, c'est-à-dire que l'objectif de 1,5 degré d'augmentation de la température moyenne par rapport à l'ère pré-industrielle, qui était l'objectif pour 2100, il est maintenant acquis qu'il sera atteint dès 2050, peut-être même voire vers 2030, et qu'une augmentation de 3 degrés est maintenant plausible, même si les engagements sont tenus. Donc, un, la situation s'aggrave. Deux, on sait de plus en plus que les conséquences en seront dramatiques. Il y a aux alentours d'un milliard de femmes et d'hommes qui vont être touchés dans les zones côtières par la montée des océans et aux alentours d'un million d'espèces végétales et animales qui risquent de disparaître. Et
mais c'est dans les grandes réunions comme les COP que se joue la lutte contre le réchauffement climatique.
Et que donc, face
vous avez
à
entendu
ça,
Yannick Jadot,
l'inaction
il parle 2000... de chaud pour dirigeants en mal de réputation
même si
écologique.
Je ne pense pas que le problème soit, on n'est pas un problème avec les COP, on a un problème avec l'absence de mise en œuvre de ce qui est décidé dans les COP et notamment dans la COP21, puisque quand on fait maintenant, on va faire l'année prochaine le bilan, 5 ans après la COP, c'est le vrai rendez-vous. Il n'est pas à Madrid cette année, il est l'année prochaine pour la COP26. Mais ce que l'on constate, c'est que les objectifs qui étaient fixés, c'est-à-dire qu'il y ait une réduction importante, c'était plus de 7% par an des émissions de CO2 dès 2020, qu'on continue à être en augmentation. Et donc il y a un problème de mise en œuvre, mais pas un problème de COP. La COP demeure un moment qui est un moment déterminant.
Natacha Polony.
Mais vous voyez tout le paradoxe qu'il y a à parler de, en effet, d'un grand raout où on va mettre en avant des bonnes intentions après avoir parlé du Black Friday, c'est-à-dire en fait de l'idée que nous sommes réduits, nous citoyens, au rôle de consommateurs pour faire marcher une machine économique qui est devenue totalement folle. C'est-à-dire que, bien entendu, que les enjeux sont essentiels, et là où Gilles a raison, c'est sur la dimension scientifique. La possibilité de se réunir pour faire un point et se mettre d'accord, tout simplement dans un consensus, autour de ce qui est en train de se passer et dont on voit en effet que on ne mesure même pas à quel point les effets se conjuguent et deviennent exponentiels. Mais pour autant, c'est la logique même d'un système économique fondé sur la division mondiale du travail, sur la consommation-production, qui est aujourd'hui à remettre en cause. C'est-à-dire qu'il va falloir, à un moment donné, prendre conscience qu'il va falloir fâcher des gens. Or, le principe de ces COP, c'est qu'on ne fâche personne. Ou en tout cas, on ne fâche surtout pas les grands intérêts économiques qui sont aujourd'hui représentés par des multinationales déterritorialisées, dont le travail de lobbying nous impose un système qui est totalement dingue. Donc cette COP va encore être, comme la COP21, une série de textes avec du conditionnel, il faudrait que, ce serait bien. Et petit à petit, on nettoie toutes les obligations, on évite surtout de se poser la question de la façon dont on peut, dans chaque pays, changer le système en modifiant les modes de consommation, en n'exportant pas notre pollution comme nous le faisons actuellement. C'est tout cela qui devrait être mis en œuvre, je crains que ça ne le soit pas.
Encore un mot, Gilles, avant de passer au débat.
Une COP, c'est pas un grand raout, et c'est pas se mettre d'accord sur la science. Ça, c'est le GIEC qui fait ça. Une COP, c'est le rendez-vous des principaux dirigeants de tous les pays du monde pour se mettre d'accord sur des objectifs et sur une action. Et ces objectifs, ils peuvent être des problèmes, des remises en cause de ce que nous, de la manière dont nous produisons et de la manière dont nous consommons les uns et les autres, pour peu qu'il soit mis en œuvre. Et donc, le problème aujourd'hui, il est celui de la mise en œuvre. Ce qui change, c'est que la prise de conscience des individus, des citoyens, est vraiment un fait totalement, totalement nouveau, mais qu'il demeure, et c'est vrai pour les États comme pour les individus, un écart entre les actes et les mots, et donc il faut maintenant passer aux actes.
À suivre dans le grand face-à-face, le débat avec le directeur de l'Institut Montaigne, Laurent Bigorgne.